France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT Sandinberghausen.
France Inter, le 18-20, Christelle Rebière.
Un conseil de la paix tout neuf, imaginé par Donald Trump, autour de Donald Trump. Première session sur Gaza. Alors est-ce une ONU du plus fort? Ce conseil est-il complémentaire ou concurrent à l'institution créée après la Deuxième Guerre mondiale? Peut-il nuire gravement à l'ONU? On en parle dans un instant. De ce pays-là, il n'est pas question au conseil de la paix en ce moment. Le Soudan, l'Union européenne alerte sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité, nous dira Frédéric Saïs dans Le Monde à l'endroit. Engagez-vous! Le reportage nous emmène ce soir en Autriche, où il est question d'allonger le service militaire obligatoire.
Je ne suis pas seulement fier d'être autrichien, je suis aussi fier d'être européen. Et défendre ma patrie, que ce soit l'Autriche ou l'Europe, me tient énormément à cœur.
Rendez-vous vers 18h42. La Chine qui accélère sur les implants cérébraux pour rivaliser avec Elon Musk, ce sera dans Sous les radars. Et des robots qui pourront demain se passer des hommes. Stéphane Jourdain est au sommet de l'IA en Inde. Il nous dira que dans la tech, la première, que Big Brother nous regarde et qu'il est urgent d'y mettre des garde-fous. Voilà, vous avez le programme de vol. Il est temps de faire une première escale.
Border peace is one of the most important and consequential things I think that I'll be involved in.
Le Conseil de la paix est la chose la plus importante dans laquelle je me suis impliqué. Nous travaillons ensemble pour mettre fin aux guerres. Vous avez reconnu Donald Trump. Première réunion donc en ce moment du tout nouveau Conseil de la paix à Washington. Donald Trump qui ne cesse de dire tout le mal qu'il pense des Nations Unies a créé son organisation parallèle avec ses règles. C'est lui le boss. Le ticket d'entrée est à 1 milliard de dollars. Au départ, il s'agissait d'accompagner son plan de paix à Gaza, mais sa vocation affichée, vous l'avez entendu, c'est de faire la paix partout ailleurs, comme l'ONU. Alors, concurrence, complémentarité, en sachant que les règles ne sont pas forcément les mêmes. Une force de paix où la paix a toute force, dans un rapport géopolitique de plus en plus musclé et incertain. Bonsoir Chloé Morel.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes historienne, chercheuse associée à la Sorbonne, spécialiste de l'ONU. La paix par la force, c'est le mantra de Donald Trump et ça donne aussi le ton qu'il donne à ce Conseil de la paix. Qu'est-ce que ça signifie au fond ?
Mais en fait, il veut court-circuiter l'ONU, il veut même la remplacer, la rendre obsolète et la remplacer par une nouvelle structure, mais qui est beaucoup moins démocratique. Parce qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a 193 États membres, donc c'est une organisation universelle et vraiment démocratique. Parce que cette Assemblée générale, chaque État a une voix, qu'il soit riche ou pauvre. Alors que dans ce Conseil de la paix, ça ne rassemble que 27 membres. Donc, il a envoyé des invitations à 60 pays. Donc, il a choisi les pays. Et ça ne représente que 18% de la population mondiale.
Mais il y en a beaucoup qui ont boudé, hein, quand même. Hein.
Oui, beaucoup. La plupart des démocraties ont refusé. La plupart des pays de l'Union européenne, sauf la Bulgarie et la Hongrie. Donc, ça divise l'Union européenne, justement. Et en fait, c'est aussi basé sur l'argent, parce que pour avoir un siège permanent à ce Conseil de la paix, il faut payer 1 milliard de dollars. Donc, c'est une sorte de diplomatie du milliard, un club payant et un club, on peut dire aussi un club de dictateurs, parce que la plupart des pays qui sont membres de ce Conseil, c'est des pays, des régimes autoritaires. Et donc, c'est tout le contraire de l'ONU,
en fait, de caractère démocratique. Il n'y a ni la Russie ni la Chine.
C'est vrai, elles ont refusé ou elles n'ont pas répondu pour l'instant. Il y a des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite, Israël, la Turquie. Donc, ça rassemble seulement même pas 20% de la population mondiale. Et Trump est président à vie, doté du droit de veto.
Voilà, et il est seul à avoir le droit de veto. On va y venir. Est-ce que ça veut dire qu'il veut privatiser l'ordre international, en fait ?
Ben, tout à fait, parce que c'est une institution qui est fondée sur lui-même, en fait, qui est très personnelle, qui est fondée sur lui. C'est lui le seul qui a tous les pouvoirs, en fait, dans cette institution. C'est pas du tout démocratique. Par contre, elle est dotée de 5 milliards de dollars. Rien que pour régler le problème de Gaza, donc c'est plus que tout le budget de l'ONU. Donc elle a du pouvoir financier. D'ailleurs, il a l'ambition de créer un New Gaza, une nouvelle Gaza, et d'envoyer des milliers de militaires. Et il se vante d'avoir déjà résolu 8 guerres en à peu près un an. Et il ambitionne de continuer comme ça et de faire des interventions en continuant sur sa lancée.
Alors, ce conseil lancé en grande pompe à Davos, on s'en souvient, le 22 janvier dernier, est censé travailler en coordination quand même avec les Nations Unies sur le plan de paix de Gaza. D'ailleurs, le cadre du plan de paix à Gaza a été défini par la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit, je cite, de promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et légitime et garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par un conflit. Mais là, maintenant, Donald Trump, il se charge aussi de la paix mondiale.
Oui, tout à fait. En fait, il ne respecte pas la plupart des textes de l'ONU. D'ailleurs, au Venezuela, début janvier 2026, avec cette intervention militaire des États-Unis au Venezuela et la capture du président en exercice, Nicolas Maduro, c'est en infraction avec les règles de l'ONU. Donc, il ne prend plus la peine de vraiment respecter les règles de l'ONU. Et l'ONU est trop faible pour le sanctionner, pour marquer le coup et faire des résolutions pour condamner vraiment ces multiples infractions aux règles de l'ONU.
Mais le Conseil de la paix peut-il se coordonner avec les Nations Unies ? Est-ce qu'il peut y avoir un travail partagé d'une certaine manière ?
Peut-être. D'ailleurs, pour Gaza, donc, il y a eu un comité national pour l'administration de Gaza qui a été créé sous la supervision du Conseil de la paix. Donc, c'est une nouvelle instance qui est dirigée par Ali Chat, qui est présent à cette première réunion qui a lieu aujourd'hui et dans laquelle Donald Trump vient de faire un discours d'ailleurs très décousu, très vague et un peu contradictoire devant un parterre de dirigeants assez autoritaires qui l'ont écouté avec un sourire.
Oui, il y avait Javier Milei, il y avait Viktor Orban, etc. Oui. Est-ce que vous pensez que ce Conseil de la paix peut réellement offrir des solutions de pacification que l'ONU ne peut pas proposer?
Alors, c'est vrai que l'ONU est paralysée, ça c'est depuis très longtemps, depuis même l'époque de la guerre froide, avec les vétos, le système du veto qui est très injuste en fait, qui a été créé en 1945, parce qu'à l'époque, c'était pour donner ce pouvoir aux cinq grands alliés qui avaient combattu contre le nazisme, donc ça paraissait justifié, la France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la Chine. Mais aujourd'hui, parmi ces cinq pays, il y en a trois dont les dirigeants sont très autoritaires et ne respectent pas les règles démocratiques. Il y a Donald Trump, bien sûr, Poutine en Russie et Xi Jinping en Chine. Donc, c'est ça le problème, c'est que les tenants du veto utilisent ce veto. Le veto, il a été utilisé plus de 300 fois et ça bloque l'ONU. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, il y a d'autres instances aujourd'hui qui s'efforcent d'être plus opérationnelles, plus efficaces que l'ONU pour rassembler des pays et trouver des solutions. Il y a le G7, il y a le G20, il y a d'autres structures comme l'OCDE. Il pourrait y avoir le Conseil de la paix, comme vous le disiez, s'il y a une coordination, effectivement, avec l'ONU pour des actions plus opérationnelles et pour avoir du budget aussi. Parce que l'ONU, malheureusement, manque de budget. L'ONU manque de budget.
Oui, d'autant que les États-Unis l'ont asséché puisqu'ils n'ont pas versé les 2 milliards de dollars qu'ils devaient verser l'année dernière. Mais est-ce qu'on pourrait réformer ce droit de veto du Conseil des cinq membres permanents du Conseil de sécurité? Il en est question ou on n'en parle pas du tout de ça?
Oui. Il en est question. La France a proposé depuis 2013 que le veto soit suspendu, que le droit de veto soit suspendu dans le cas où le Conseil de sécurité traite de situations où des crimes de masse sont en cours. Donc c'est le cas aujourd'hui, par exemple à Gaza, et elle a été suivie par plus de 100 pays, des pays du Sud global, sur cette initiative. Mais c'est juste une initiative, une proposition. Et pour qu'elle soit prise en compte et validée, il faut que ça soit voté par une majorité de 9 des 15 pays du Conseil de sécurité. Mais il y a le droit de veto qui peut s'appliquer. Ça veut dire que, par exemple, les États-Unis pourraient s'opposer à cette mesure qui consiste à suspendre le droit de veto.
Donc, c'est improbable. C'est hautement improbable.
Oui, c'est très improbable. En fait, c'est le problème de la charte de l'ONU et de la manière dont elle donne les règles pour changer cette charte, justement, pour la faire évoluer.
Mais est-ce qu'elle est obsolète aujourd'hui, cette charte qui a été construite sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, cette charte, elle est très importante parce que, d'un certain côté, elle est très progressiste. Elle affirme, par exemple, l'égalité homme-femme, les ambitions de paix, d'universalisme, des notions très fortes et très progressistes. Donc ça, c'est très important de bien s'y tenir. Par contre, effectivement, il y a un côté un peu obsolète avec ces cinq pays qui ont ce droit de veto et cette manière qui verrouille un peu la manière de vouloir faire évoluer la charte et faire évoluer le système de l'ONU, parce qu'aujourd'hui, les cinq pays qui ont le droit de veto, ils représentent une faible proportion de la population mondiale. Aujourd'hui, la population mondiale est beaucoup plus majoritaire dans les pays du Sud qui n'ont pas ce droit de veto. Donc il faut arriver à leur donner plus de pouvoir au sein de l'ONU, les pays du Sud comme le Brésil, les pays très peuplés comme l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Voilà, il faudrait vraiment donner plus de place au peuple du Sud à l'ONU et la rendre plus efficace au moyen par des sanctions aussi. Elle a normalement des pouvoirs de sanctions, mais elle manque de force contraignante et de budget aujourd'hui pour bien fonctionner.
Alors, Antonio Guterres disait le 26 janvier dernier, c'est-à-dire juste après la création de ce Conseil de la paix, « Partout, l'état de droit est remplacé par la loi de la jungle. De Gaza à l'Ukraine, l'état de droit est traité comme un menu à la carte. » Est-ce que ce n'est pas un formidable aveu d'impuissance ?
Oui, tout à fait. C'est vrai, il a raison, parce que, par exemple, si on prend la charte de 8 pages du Conseil de la paix de Donald Trump, il n'y a pas une seule fois le mot « démocratie » qui apparaît dans cette charte du Conseil de la paix, contrairement à la charte de l'ONU qui, elle, mentionne toutes ces idées très progressistes et humanistes. Mais Guterres, il est trop dans le fait de déplorer. À chaque fois qu'il prend la parole, il dit « on condamne, l'ONU condamne ceci, l'ONU déplore cela ». Ça manque de propositions, il faudrait faire des propositions plus marquantes. Et en fait, l'ONU, tout dans son ensemble, a un déficit dans le domaine de la communication. Parce que l'ONU, ce n'est pas seulement les casques bleus qui sont un peu en marginalisation aujourd'hui, mais c'est aussi 16 agences spécialisées comme l'UNESCO pour la culture et le patrimoine, l'OIT pour le droit du travail, la FAO pour l'alimentation, l'agriculture, l'OMS pour la santé. Donc il y a des tas d'actions.
Des agences que les États-Unis ne veulent plus financer, hein, clairement.
Tout à fait.
Et ça affaiblit les Nations Unies.
Ça les affaiblit beaucoup. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a 16 agences, donc ça veut dire des actions dans des tas de domaines différents. Ce n'est pas seulement faire la paix sur le plan militaire, c'est aider de manière humanitaire en RDC, dans Centrafrique, Haïti, le Liban, partout. Il y a des aides qui sont apportées sur le plan humanitaire, sur le plan médical, etc. Donc c'est très important toute cette action multiforme qui a été mise en place depuis 1945 et il faut qu'elle continue et qu'elle soit financée. Il faut que les États continuent à la financer.
Dernière question, il y a eu la Société des Nations après la guerre de 14-18, les Nations Unies donc après la Seconde Guerre mondiale. Faut-il imaginer une autre instance internationale, outre le Conseil de la paix évidemment, pour accompagner aujourd'hui l'émergence de ce nouvel ordre mondial ?
Ben oui, je commence à penser qu'il faudrait y penser parce que, en fait, les pays du Sud n'ont pas assez de place à l'ONU. Oui. L'ONU n'a pas assez de budget, elle n'a pas assez de force contraignante, elle est bloquée par le veto. Donc, il faudrait penser à de nouveaux forums, de nouvelles institutions qui soient démocratiques, par contre, pas comme le Conseil de la paix de Trump, qui est vraiment très centré sur lui-même et sur l'argent. Donc, il faudrait penser à de nouvelles architectures pour faire vivre le multilatéralisme tel qu'il a été pensé depuis déjà l'entre-deux-guerres et puis depuis 1945.
Voilà, il faut réfléchir autrement pour accompagner les changements du monde. Merci Chloé Morel. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les grands discours de l'ONU » publié aux éditions du Croquant. Bonne soirée à vous. La suite, c'est avec vous Frédéric Saïs. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Christelle.
Et vous remettez le monde à l'endroit.
Absolument, je vous parle d'un pays englué dans la guerre et pourtant pas un mot aujourd'hui au Conseil de la paix de Donald Trump.
Et ce sera dans 2 minutes 47 exactement. I'm L'américaine Hayley Williams, Kill Me, membre du groupe Paramore. Elle s'offre une tournée en solo cette année. Elle sera au festival Wheel of Green le 6 juin prochain, au Bois de Vincennes. Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Lors de l'inauguration de son conseil de paix dont on parlait à l'instant, Donald Trump n'a pas dit un mot de ce pays en guerre depuis bientôt 3 ans.
Le Soudan, immense pays d'Afrique de l'Est qui vit la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. Au moins 11 millions de déplacés, des morts par dizaines de milliers. La mission spéciale des Nations Unies pointe même dans son rapport rendu hier des intentions génocidaires, je cite, contre les communautés non-arabes de la région. De possibles crimes contre l'humanité alertent aussi l'Union européenne aux côtés du Canada et du Royaume-Uni. Mais ces alertes, Christelle, se heurtent au silence quasi général. Silence y compris donc aujourd'hui au Conseil de la paix inauguré par Donald Trump. Pourtant, cet organe, s'il porte bien son nom, devrait en toute logique se saisir du conflit le plus meurtrier du monde.
Alors comment comprendre ce désintérêt du président américain pour la guerre au Soudan ?
Oui, d'abord, le conflit est complexe. C'est une guerre entre l'armée régulière et un groupe paramilitaire. S'y ajoutent des milices aux alliances parfois changeantes. Par ailleurs, ce qui oppose les deux camps, ce n'est pas une guerre de religion. Tous sont musulmans, ce sont plutôt des rivalités politiques, territoriales, ethniques et économiques. Une situation confuse, donc difficile à faire entrer dans un récit binaire, simpliste. Et comme ce conflit est largement invisible, il n'y a pas vraiment de gain politique à le résoudre dans l'esprit de Donald Trump. Le président américain a délégué le dossier à son envoyé spécial, Massad Boulos, lequel tente de mettre sur pied des discussions entre les belligérants. Il dit avoir bon espoir que des couloirs humanitaires soient créés, même si, sur le terrain, pendant ce temps, les exactions et les frappes de drones continuent.
Une autre raison, Frédéric, de ce désintérêt américain pour la guerre au Soudan ?
Il n'y a pas de riviera à construire, pas d'investissement à réaliser, bref, pas d'enjeu économique pour les États-Unis. Le président Trump voit dans cette grande région d'Afrique orientale un bourbier pauvre et miné par la guerre. Souvenez-vous du mot qu'il employait pour la Somalie, shithole, trou à rat. Pourtant, le Soudan possède de vastes ressources minières, en particulier l'or. La bataille pour son contrôle explique en partie cette guerre totale. La présence d'or explique aussi pourquoi de nombreux pays du Proche et du Moyen-Orient s'impliquent plus ou moins discrètement dans ce conflit au Soudan.
Et c'est la troisième raison pour laquelle Donald Trump ignore largement ce conflit ?
Oui, prendre parti, ça veut dire choisir ses amis. Or, dans cette guerre, les alliés des États-Unis sont répartis dans les deux camps. D'un côté, l'Arabie Saoudite soutient l'armée régulière soudanaise, l'Arabie Saoudite grande amie de Donald Trump, mais de l'autre côté, les Émirats arabes soutiennent eux le camp d'en face, celui de l'insurrection, les paramilitaires soudanais. Or, les Émirats sont aussi des proches alliés de Washington. Alors Donald Trump se garde bien de mécontenter l'un ou l'autre de ces pays du Golfe. Il en a bien besoin dans d'autres dossiers, dont l'Iran et Gaza.
Merci Frédéric. Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène en Autriche, un pays neutre qui, à l'heure des changements géopolitiques, entend renforcer son armée. Le pays est l'un des rares en Europe où le service militaire est encore obligatoire. À partir de 18 ans, chaque jeune Autrichien doit effectuer 6 mois de service militaire ou, s'il refuse, 9 mois de service civil. Une commission nommée par le ministère de la Défense préconise désormais d'allonger à 8 mois ce service militaire et d'y ajouter 2 mois d'exercice obligatoire à faire avant leurs 30 ans. Réforme urgente et nécessaire, selon cette commission. Le chancelier autrichien est favorable à un référendum. Le reste, c'est Isor Ias qui raconte.
Dans la caserne viennoise Maria Thérésienne, Lorenz, 18 ans, nous montre fièrement sa chambre qu'il partage avec ses camarades. Lit impeccable, placard rangé, tout y est très ordonné. Le jeune homme effectue son service militaire depuis octobre dernier, comme 16 000 recrues chaque année en Autriche.
On commence bien sûr par apprendre à manier une arme. Personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres jeunes de 18 ans, je n'avais jamais eu de fusil entre les mains auparavant. On apprend à le démonter, l'entretenir, le remonter, puis bien sûr à tirer avec. Ces dernières semaines, l'accent a été mis sur la manière de combattre en groupe.
La commission nommée par le ministère de la Défense souhaite passer de 6 à 8 mois le service militaire et de 9 à 12 mois le service civil. Un allongement conséquent donc, mais que Lorenz juge nécessaire aujourd'hui, bien conscient, malgré son jeune âge, que la situation actuelle l'exige.
Après quelques mois de service militaire, ma mère m'a demandé « Lorenz, tu te sens prêt avec cette formation ? Penses-tu que tu en auras besoin un jour ?» Ça fait réfléchir, surtout en cette période de tension. Je ne suis pas seulement fier d'être autrichien, je suis aussi fier d'être européen. Et défendre ma patrie, que ce soit l'Autriche ou l'Europe, me tient énormément à cœur. Car quand on a quelque chose qui offre autant de liberté, autant de possibilités que l'Autriche et l'Europe, je trouve qu'on doit apporter sa contribution.
La Commission propose aussi de lancer la réflexion pour rendre le service militaire obligatoire pour les femmes, idée qui est loin de faire consensus en Autriche. Aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat, c'est ce qu'a fait Lisney, 27 ans. Cette étudiante en droit, qui est originaire du Sri Lanka et a grandi en Autriche, est aujourd'hui une des trois femmes sur les 130 recrues que compte sa compagnie. Selon elle, les jeunes de sa génération sont appelés à davantage s'engager.
Pour beaucoup de jeunes, cela peut être perçu comme un sacrifice, mais la paix ne va pas de soi. Les générations qui nous ont précédés se sont battues pour ce pays. Et personnellement, j'estime qu'il est de mon devoir, en particulier en tant que personne immigrée, d'honorer mon nouveau pays, et oui, si nécessaire, de le protéger. Je trouve important que les femmes le fassent aussi, mais quant à savoir s'il faut le rendre obligatoire pour elles, je pense que ce serait assez difficile, car il y a différents aspects et facteurs à prendre en compte. Mais pour moi, c'était important de le faire.
L'armée autrichienne repose sur un système de milices, c'est-à-dire de soldats non professionnels mobilisables en cas de besoin. Mais aujourd'hui, seule une partie des conscrits rejoignent ensuite la milice. La commission recommande qu'à l'avenir, cela soit automatique en imposant à tous les conscrits 2 mois d'exercice de milice obligatoire qu'ils devront effectuer dans les 10 ans suivant leur service militaire. L'objectif est clair, disposer de plus d'hommes et mieux formés, c'est la clé pour un changement de paradigme selon le lieutenant-colonel Norbert Lick.
Nous avons déjà obtenu une augmentation du budget de la défense. C'était une première étape. Le personnel en est une deuxième. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du rideau de fer, nous n'avions pas de menaces réelles venant de l'Est. Cela a bien sûr changé. C'est revenu depuis quelques années. Mettre en place ces changements amènerait une prise de conscience au sein de la population, car il concerne tous les citoyens de sexe masculin. Tout le monde réalisera alors que les choses bougent. Je crois que cela permet de changer les mentalités.
La commission, qui a travaillé 6 mois sur ce sujet, espère une loi rapide. Le chancelier autrichien Christian Stocker s'est dit pour cela favorable à un référendum.
Reportage signé Isor Ias. Soyez les bienvenus dans le 18-20 si vous nous rejoignez. Il est 18h46. La suite, c'est ce qui a failli passer sous les radars avec Guillaume Audat. Nous irons à Gaza, en Chine et à Londres. Et si les robots s'affranchissaient des hommes, on n'en est pas loin. Et Stéphane Jourdain nous fera frémir depuis le sommet de l'IA à New Delhi. Mais tout de suite, du soleil dans nos oreilles pour chasser la grisaille, la bossa nova de la brésilienne Astrud Gilberto. Sophinia, dessert comme vous, c'est à savourer sans modération.
Quero só pra você.
remercie notre programmateur musical Djoubaka pour ce moment de grâce qui date de 1965.
Et... France Inter, le 18/20.
Le jeudi, c'est donc la Tech, la première, avec Stéphane Jourdain. Vous ne pouviez pas ne pas être au sommet de l'IA depuis New Delhi en Inde. On joue à se faire peur. L'essai très alarmiste sur les dangers de l'IA, publié il y a quelques jours par Dario Amodei, le patron d'Anthropic, l'un des principaux concurrents de ChatGPT, est dans toutes les têtes. Tout le monde semble se positionner par rapport à ça.
Oui, c'est un essai de 50 pages publié quelques jours avant le sommet de l'IA pour tirer la sonnette d'alarme. 1. D'ici 2 ans, les IA seront capables de coordonner des robots ou des ordinateurs de manière autonome en se passant des humains. 2. Des régimes dictatoriaux pourraient s'en servir pour surveiller totalement leur population et prendre un avantage militaire décisif. 3. L'IA menacerait la moitié des emplois de cadres débutants dans les 5 prochaines années et nos sociétés ne sont pas équipées pour encaisser ce choc. Pour éviter le pire, Dario Amodei suggère la mise en place de constitutions d'IA pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences de l'humanité et d'instituts de sécurité pour contrôler les boîtes noires des grands éditeurs d'IA.
Or, ce matin, Sam Altman a semblé se ranger derrière son discours.
Oui, presque point par point, on l'écoute.
For example.
Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui va se passer si des dictateurs et des pays totalitaires mettent à profit les potentiels d'une superintelligence. Nous ne savons pas comment des pays peuvent se servir de l'IA pour se livrer de nouveaux types de guerres. Et nous ne savons pas quelles sont les nouvelles formes de contrats sociaux que les pays vont devoir mettre en place. Mais nous pensons qu'il vaut mieux qu'on en parle avant qu'il soit trop tard.
Jamais Sam Altman n'a autant parlé de régulation que ce matin. Il souhaite qu'on s'inspire des garde-fous mis en place dans le domaine du nucléaire.
Nous en avons besoin et c'est urgent, comme nous les avons pour d'autres technologies aussi puissantes. Nous pensons notamment que le monde doit se doter d'un équivalent de l'AIEA pour la coordination internationale de l'IA et surtout pour être en capacité de réagir rapidement si les circonstances l'imposent. Nous avons le choix, rendre les gens plus forts ou concentrer tous les pouvoirs.
Pouvoir réagir rapidement si les circonstances l'imposent.
Sam Altman semble se rallier en partie à la position de Dario Amodei, mais l'hostilité entre les deux hommes est toujours bien tenace.
La preuve, il refuse de se serrer la main. C'est une image assez incroyable ce matin au sommet de l'IA, je vous la raconte. Le Premier ministre Narendra Modi fait monter sur scène tous les grands noms de l'IA, le patron de Google, celui d'OpenAI, les directeurs de Meta, le patron d'Anthropic. Et pour la photo, l'Indien leur fait signe de se tenir la main, mais Sam Altman et Dario Amodei, qui sont côte à côte, refusent. Extraordinaire moment de gêne. Ils ne savent pas quoi faire de leurs mains, mais ils ne veulent surtout pas se toucher. Comme si la scission de 2021 était toujours aussi vivace, quand Dario Amodei, qui était alors directeur de la recherche, a claqué la porte d'OpenAI avec une poignée d'ingénieurs pour fonder Anthropic en mettant la sécurité des IA au-dessus de tout. On parlait à l'époque d'un schisme entre les doomers, vous savez, ce sont les alarmistes de l'intelligence artificielle pour qui l'IA représente un risque existentiel pour l'humanité, et les accélérationnistes pour qui la technologie et donc l'IA sont la solution aux grands défis de l'humanité.
Et cette opposition donc entre les doomers et les accélérationnistes que je viens de découvrir est toujours bien vivace.
Oui, comme si l'essai de Dario Amodei lui avait redonné de la force. On a demandé tout à l'heure à Yann Lequin, ancien patron de l'IA à Meta, qui est en train de créer son entreprise, l'un des parrains des IA modernes, comment il se positionnait par rapport aux inquiétudes de Dario Amodei. Et vous allez l'entendre, il en a un peu ras-le-bol du patron d'Anthropic et de ses doomers.
Pour rester poli, c'est absolument du n'importe quoi. Dario vient d'une espèce de mouvement intellectuel californien dont il essaie de se distancer maintenant, mais qui est un petit peu motivé par justement cette histoire que l'IA peut détruire l'humanité, etc. Et maintenant, en fait, il a contourné cet argument pour convaincre le gouvernement de réglementer l'IA à son profit. Son discours, c'est de dire « régulez l'IA, mais ne nous régulez pas, nous, parce que nous, on est assez intelligents pour le faire correctement ». C'est un argument qui, d'abord, relève d'un complexe de supériorité absolument incroyable, et ensuite a pour but de fermer la porte au reste de l'industrie. Et à mon avis, c'est un discours extrêmement dangereux dans un futur où toute notre information en fait, va nous parvenir par l'intermédiaire d'assistants d'IA. Si ces assistants d'IA sont produits par 2 ou 3 entreprises, soit sur la côte ouest des États-Unis, soit en Chine,
C'est très très dangereux pour la diversité linguistique, culturelle, pour la démocratie, etc. Vous l'entendez, Yann Le Cun est farouchement opposé à une régulation stricte qui briderait la recherche. Il craint que les appels à la régulation de ses concurrents ne soient une forme de capture réglementaire pour protéger leur monopole. Et pour lui, la solution passe par des technologies collaboratives.
Moi, ce que j'essaie de promouvoir depuis plusieurs années, c'est un espèce de consortium qui produirait un système d'IA qui soit une espèce de dépositaire de toute la connaissance humaine et qui serait entraîné collaborativement par plusieurs régions, plusieurs pays, plusieurs acteurs privés dans le monde, dont le résultat serait en fait d'avoir été entraîné sur un petit peu de toute la collection de connaissances humaines.
Une sorte de service public de l'IA.
Et le problème, Stéphane, c'est que pendant qu'on parle des risques existentiels des IA et de l'avènement de la super intelligence artificielle, bah évidemment, on ne parle pas de tous les autres dossiers brûlants.
Oui, les problèmes de droits d'auteur que posent ces IA entraînées de façon sauvage, les deepfakes qui inondent nos sociétés, les fausses informations ou les spirales de dépendance affective des IA, des dossiers du quotidien qui sont quasiment absents du sommet de l'IA.
Merci Stéphane et à la semaine prochaine en studio sous les radars, Guillaume Audat.
One key step here is the International Security Force for Gaza. A number of countries have signaled they're willing to contribute troops.
À Gaza, Washington jette les plans d'une base militaire internationale destinée à accueillir pas moins de 5000 hommes.
De quoi, sur le papier, faire le coup de feu contre le Hamas si d'aventure celui-ci refusait de déposer les armes, comme le prévoit en principe le plan de paix américain. Une confrontation militaire entre la force internationale qui doit se déployer sur place et l'organisation politico-terroriste palestinienne est un scénario qui malheureusement tient la route. Les documents consultés par le Guardian, le quotidien britannique qui dévoile l'information, prévoit la construction d'un poste militaire d'environ 350 hectares entouré de 26 tours de surveillance blindés montés sur remorque, d'un pas de tir pour armes légères, mais encore de bunkers et d'un entrepôt destiné au matériel d'assaut opérationnel. L'Indonésie est prête à dépêcher ses troupes sur cette base qui sera construite dans le sud, non loin de Rafah, un complexe ceinturé de barbelés, une sorte de Fort Knox sur des terres dévastées et encore plus occupées qu'elles ne le sont déjà par l'armée israélienne. Un très grand flou juridique entoure le projet, le risque étant la marginalisation à l'excès des Palestiniens, ceux de bonne volonté, et ils constituent l'immense majorité des Palestiniens sur le dos desquels est envisagé leur avenir.
近日 ，AI 加脑机数据平台在北京正式发布。这个平台
，On appelle ça des implants cérébraux. En Chine, on parle de cerveau-machine. Pékin prépare des puces capables de rivaliser avec celles des Américains.
Et en particulier celle d'Elon Musk, leader du secteur avec sa société Neuralink, qui prévoit dès cette année, dès 2026 donc, de passer du prototype au standard industriel. Alors ça ne veut pas dire qu'on en est à la phase grand public, mais c'est un pas de géant du point de vue de la production en volume et des techniques d'implantation de puces dans les cerveaux. Vous pensez bien que du côté de la Chine, on regarde cela avec beaucoup d'attention. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'objectif est d'accélérer très fort pour dépasser les États-Unis. Neuroxess est en première ligne, une start-up basée à Shanghai. Elle développe des implants cérébraux qui permettent à des patients lourdement handicapés de communiquer avec des machines. Mais la différence avec Neuralink, c'est que sa technologie repose sur une maille métallique posée à la surface du cerveau, nettement moins invasive que les puce d'Elon Musk. Commercialisation de cette technologie rivale et prometteuse dès 2030.
Every season, London breathes a new wind of originality and creativity.
To be la capitale de la mode again, Londres ouvre sa Fashion Week aujourd'hui et entend bien récupérer à sa couronne au détriment de Milan et Paris.
Vous avez tout dit, ou presque, Christelle. Moi, ce que je vais raconter aux auditeurs qui ne vous voient pas, c'est que vous êtes une véritable fashionista. Vous êtes toujours parfaitement mise, un peu comme sur les podiums de la Fashion Week de Londres. Elle a longtemps été, cette London Fashion Week, une icône des années Cool Britannia, cette époque où le Royaume-Uni avait la cote dans tous les domaines, la cote aussi, la peinture, l'architecture, la haute couture. Stella McCartney, Alexander McQueen ont fait les nobles heures de la mode anglaise, mais le Brexit est passé par là et a laminé l'industrie outre-Manche. Sauf que Lara Weir a repris le flambeau cette année, ancienne journaliste de British Vogue. Elle a su attirer de nouveaux acheteurs, mais surtout la presse internationale. Et comme dans la mode, tout passe de mode, c'est le classique. Paris et Milan pourraient tirer leur révérence, Londres tirer son épingle.
règles. Réponse ce soir avec vous, Christelle, au bord de la Tamise.
Ben voyons. Merci Guillaume, à la semaine prochaine. Allez, nous sommes quasiment à la mi-temps du 18-20. Suivre le journal de 19h présenté par Amélie Perrier. Puis le téléphone sonne. Bonsoir Lionel Thompson.
Bonsoir.
Ce soir, on prend le pouls de la Gen Z, c'est-à-dire les 15-29 ans.
J'ai 26 ans, pas moi, hein. J'ai 26 ans, nous dit Sophie. Et il y a comme une impression que la fête est finie, alors que pour nous, elle n'a jamais vraiment commencé. Il y a de quoi avoir un peu le blues, c'est vrai pour les jeunes, dans un monde où ressurgit le spectre de la guerre, où le changement climatique menace, où les bouleversements technologiques et sociaux bousculent. André, père de deux enfants, s'inquiète, lui, de les entendre dire que le diplôme ne sert plus à rien. La perspective du premier emploi est très difficile, ajoute-t-il. Alors faut-il vraiment se désespérer pour l'avenir de cette Gen Z, ou faire confiance à ses ressources? Vos témoignages, vos questions, une émission pilotée par une éternelle jeune, n'est-ce pas Christelle?
Décidément. Allez, 01 45 24 7000, à Skip, vous connaissez le numéro.